Europe 1,
la France bouge.
Carole Ferry,
Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France bouge, ravi de vous retrouver pour parler de cette France qui retrousse ses manches, qui va de l'avant, qui entreprend et qui, on le voit depuis bientôt 2 ans, sait faire face à l'adversité. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry, bonjour à toutes et à tous. Au moment où les prix de l'énergie s'envolent, la transition écologique est sûrement encore plus importante. Et parmi elles, la rénovation énergétique des bâtiments. C'est le fer de lance de l'un de nos plus anciens fleurons industriel, et le pire c'est qu'il est vieux mais qu'il va bien. C'est Saint-Gobain, son tout nouveau patron, est avec nous jusqu'à 14h.
Construire un monde plus vert, et bien justement nous vous ferons découvrir une solution pour recycler la fibre carbone. 2,5 fois plus légère que l'aluminium, elle devient un incontournable de l'industrie, mais comme tous nos matériaux de construction, elle a besoin d'être recyclée. C'est ce que propose Fermat.
Et vous allez où pour acheter vos matériaux de construction? On a tous sa marque préférée. L'un des leaders dans ce secteur, c'est Point P, une marque qui appartient à Saint-Gobain. Elle a été rachetée il y a 25 ans et on vous racontera son histoire aux alentours de 13h30.
Et bien sûr, nous accueillerons notre trophée de l'avenir européen, la France bouge. On construit de plus en plus de piscines, mais le matériel d'entretien coûte souvent très cher. Et bien notre trophée vous présentera sa solution de vente de matériel reconditionné.
Enfin, demain on travaille avec aujourd'hui l'exemple du cabinet de conseil Bearing Point. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils favorisent l'usage du vélo pour venir au boulot et on leur passera un coup de fil en fin d'émission.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter, Instagram ou Europe1.fr.
Europe 1.
On vous le dit chaque jour, mais c'est vrai, on est très heureux de vous retrouver de 13h à 14h autour de la table de La France bouge. Et aujourd'hui, on va parler économie d'énergie avec notre grand témoin.
Benoît Bazin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le tout nouveau PDG de Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, on connaît tous le nom bien sûr, mais pas toujours ce qui se cache derrière. Vous êtes l'un des leaders mondiaux de la fabrication de matériel de construction pour le bâtiment, mais aussi l'automobile, la santé, l'industrie. Vous êtes un peu partout dans notre quotidien et dans le monde, puisque vous êtes présent dans 70 pays. Alors regardons la France d'abord. On est face aux défis majeurs de la transition écologique, notamment de la rénovation de nos bâtiments. Au moment où les prix de l'énergie s'envolent, c'est vraiment urgent.
C'est urgent, on l'a vu. Quand les prix d'énergie s'envolent, on se dit que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Et donc, il faut accélérer la rénovation énergétique. Celle de nos maisons individuelles. Nous avons en France cette belle enseigne Point P qui est à moins de 9 km de n'importe quelle maison avec des artisans formés par Saint-Gobain pour faire de la rénovation. C'est vrai aussi de nos écoles, de nos hôpitaux. Saint-Gobain apporte comme leader mondial de la construction durable des solutions. Qu'est-ce que c'est une solution? C'est un ensemble de produits qui répond à un besoin particulier. Ça peut être l'acoustique d'une salle de classe, ça peut être les performances sanitaires dans un hôpital. Tout ça, c'est Saint-Gobain au plus proche des Français. On voit le succès de la prime Rénov.
Vous le voyez concrètement?
On le voit très concrètement, depuis le début de l'année, il y a un peu plus de 400 000 projets qui ont été déposés par 10 particuliers pour rénover leur maison.
Et alors, qu'est-ce qu'ils font le plus comme travaux, ces particuliers?
C'est souvent des rénovations qu'on dit globales, mais qui, au passage, ont pour moitié des travaux de la rénovation énergétique. Ça permet de
alors,
faire...
Alors, global, mais dites-nous concrètement, c'est quoi comme travaux?
Global, c'est souvent à l'occasion d'une transaction immobilière. Vous achetez un bien, vous refaites la salle de bain, vous changez les fenêtres... Vous faites une isolation, quelquefois une extension de pièces. On a vécu la période de confinement avec le besoin d'un petit peu plus de mètres carrés pour travailler, pour parfois éduquer ses enfants. Et donc, on peut faire par exemple une hauteur supplémentaire sur une maison. On l'a fait en ossature légère avec du bois et puis des matériaux Saint-Gobain à l'intérieur pour bien isoler cette extension, par exemple.
Alors, on peut tous faire des efforts au niveau individuel. Vous parlez de nos maisons, mais c'est vrai que le point que vous abordiez est aussi capital pour... les bâtiments, notamment les bâtiments publics. Dans le cadre du plan de relance, il y a officiellement beaucoup d'argent mis sur la table pour que cette rénovation accélère. Est-ce que l'État déjà ne devrait pas aller un poil plus vite encore?
Il faut aller plus vite. L'Union européenne nous dit qu'il faut doubler la rénovation en Europe, bâtiments privés et aussi effectivement bâtiments publics. Il faut que nos gymnases, nos écoles, nos hôpitaux, nos mairies, nos crèches soient exemplaires en termes de performance énergétique.
Alors, qu'est-ce qui est le plus efficace comme travaux? Parce qu'effectivement, on parlait global, là vous dites, quand on refait complètement son appartement, mais quand on veut isoler, on parle souvent des fenêtres, mais les fenêtres tout seul, ça ne sert à pas grand-chose. C'est quoi une rénovation globale pour bien isoler son logement?
Le premier ordre de grandeur, c'est vraiment le bâti, toute l'enveloppe du bâtiment. Vous avez raison, ce ne sont pas que les fenêtres, c'est aussi la toiture, c'est aussi l'étanchéité de toutes les cloisons et de tous les parois, c'est le sol également. Donc il faut l'enveloppe. Avec une bonne rénovation de l'enveloppe, vous avez fait les 3/4 du chemin en termes de performance.
Cher.
Non, en fait, quand on regarde, on a fait, nous, des exemples très concrets sur une maison individuelle. On va prendre une maison à Caen, je suis normand, de 120 mètres carrés. Eh bien, avec entre 1 000, 1 500 euros par mètre carré, vous pouvez faire une extension et une rénovation globale. Et ça, ça vous permet de réduire de 2 500 euros à peu près votre facture énergétique dans l'année. Et ça vous permet surtout...
2 500 euros.
Oui, donc c'est important, c'est 70% de baisse. Et ça vous permet aussi de revaloriser patrimonialement votre maison. Parce que si elle est classe F, le plus bas du diagnostic, vous ne pourrez plus la louer, la vendre. Si vous la passez en classe B, avec ce type de rénovation, eh ben vous revalorisez de 50 à 100 000 euros la valeur de votre patrimoine immobilier. Donc c'est vraiment intéressant.
J'étais étonné par un des points que vous mettez régulièrement en avant, c'est la rénovation énergétique, ça fait aussi des économies. Par exemple, il y a moins d'absentéisme quand on rénove une classe, quand on rénove un hôpital, parce qu'il n'y a pas de courant d'air, parce qu'on est mieux dans ses pièces. Eh bien, les gens
parce qu'il y a moins
mieux.
De bruit, c'est pas que l'isolation thermique, c'est aussi l'isolation phonique.
Il faut penser à l'ensemble de la performance. Et alors nous, on a tout le savoir-faire, la science du bâtiment de Saint-Gobain derrière tout ça. On a fait des corrélations assez parfaites. Hein.
Et c'est réel, vous avez vraiment des chiffres qui vous permettent d'affirmer
nous
ça.
Nous avons des chiffres qui permettent de diviser par 3, par exemple l'absentéisme après plusieurs années de professeur. On a fait ça sur le Benelux, hein, en Belgique et aux Pays-Bas. Dans une salle de classe mal isolée, ça veut dire que les professeurs font de l'hypertension après 10-15 ans, se fatiguent, sont souvent énervés, on le comprend, à la fin de la journée parce qu'il faut crier plus fort, les enfants entendent moins bien, et à la fin, ça se termine effectivement par un moins bon apprentissage et de l'absentéisme. Donc une bonne rénovation, c'est non seulement j'améliore ma facture comme directeur d'école, ma facture énergétique, et en plus, je donne un confort de travail à mes professeurs.
On aurait pu craindre que la crise économique générée par le Covid ralentisse la transition énergétique. On a l'impression que c'est même au contraire un accélérateur. Vous ressentez ça ?
C'est clairement en effet un accélérateur parce qu'il y a un lien qu'on a tous fait entre la qualité de vie, la qualité de l'air et la santé. Deuxièmement, on a un retour vers la maison individuelle. La maison, c'est notre refuge ultime. Un toit, un refuge. Une maison, un refuge. Donc il y a ce retour vers la maison individuelle, le travail aussi à la maison, qui permet quelquefois de quitter des petites surfaces en grande ville pour se mettre en province, pour se mettre en banlieue, dans un espace plus agréable. Donc la qualité de vie chez soi, c'est finalement le premier sujet des Français.
Mais est-ce que vous êtes vous-même, malgré tout, impressionné que ça accélère à ce point-là et que ça accélère si vite ? Parce que comme le disait très bien Carole Ferry, au tout démarrage de la crise, on s'est dit « Oula, on va faire des économies partout, ça va être la catastrophe. » Et au final, on en sort avec cette idée assez communément partagé, qu'il va falloir aller beaucoup plus vite peut-être sur la transition écologique. Est-ce que vous êtes vous-même étonné par cela ?
Ce sont des tendances de fond. Il y a quelques années encore, certains débattaient du changement climatique, il y a 5 ou il y a 10 ans. Je constate aujourd'hui que tous les pays de la planète sont alignés.
À peu près, quoi. Si on met de côté le Brésil ou des gens comme ça, quoi.
On a 120 pays qui se sont engagés pour la neutralité carbone en 2050. C'est 70% de l'économie mondiale. Donc il y a un alignement très important de tous les pays. Il faut aller ensuite très vite sur ces sujets-là. Et donc doubler, notamment en Europe, la rénovation. Mais vous savez, même les pays émergents vont très vite. L'Inde, la Chine...
Pour y arriver, ce que vous dites, c'est qu'il faut aussi que l'État mette plus d'argent, là, tout de suite, parce que finalement, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement.
C'est un investissement.
Un moyen de faire des économies, en tout cas.
C'est un investissement, effectivement.
Benoît Bazin, vous êtes le PDG de Saint-Gobain et notre grand témoin du jour. Vous êtes avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
La France bouge.
Carole Ferry,
Emmanuel Duteil.
La France bouge et nous sommes toujours avec le patron de Saint-Gobain, le tout nouveau patron de Saint-Gobain, Benoît Bazin. Aujourd'hui, on parle rénovation énergétique dans La France bouge. Et si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous l'entendez, ça cartonne en ce moment, notamment grâce à MaPrimeRénov, 400 000 sur l'année.
Et nous sommes également avec Benjamin Saada, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le fondateur de Fermat, c'est une start-up qui a trouvé une solution pour recycler la fibre de carbone. On va déjà expliquer ce que c'est hein, que la fibre de carbone. C'est un matériau génial car à la fois solide et ultra léger. Elle est utilisée en fait un peu partout dans l'industrie aujourd'hui, ou ça exactement ?
La fibre de carbone est utilisée à peu près partout dans l'industrie. C'est ce qui permet de fabriquer des éoliennes, c'est ce qui permet de fabriquer des avions qui polluent moins. C'est également ce qui permet de fabriquer les voitures à hydrogène. Parce que c'est le seul matériau qui peut stocker l'hydrogène.
En fait, c'est parce que c'est plus léger que ça pollue moins ?
Alors, c'est parce que c'est un matériau extraordinaire. Et donc, il permet d'améliorer les objets qui sont fabriqués avec eux. Par exemple, une pale d'éolienne en fibre de carbone, elle va être plus grande. Donc, elle va fabriquer plus d'énergie avec la même quantité de vent.
Alors, du coup, de ce que vous dites, on est sûr d'en avoir besoin, et beaucoup besoin dans les années à venir. Le problème, c'est que jusque-là, on ne savait pas très bien la recycler. Je crois qu'elle représente 62 000 tonnes de déchets dans le monde. Ce n'est pas terrible, bien évidemment, pour la planète. Et vous avez justement, et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous inviter, trouver une solution pour la recycler. Comment vous faites ?
Alors, d'abord, ça représente 62 000 tonnes en ce moment. Mmh. Mais il faut savoir qu'il va y avoir 190 millions de tonnes de fibres de carbone à recycler dans les 50 années à venir. Donc, c'est un problème écologique majeur pour tous les citoyens et tous les groupes industriels. Et en même temps, il faut l'utiliser, parce que ça permet de faire des objets qui sont mieux. Donc, la proposition de Fermat, c'est de le recycler. Et de le recycler d'une manière tout à fait nouvelle, puisque c'est un recyclage vertueux, c'est-à-dire qu'on va utiliser moins d'énergie pour recycler que ce qu'il a fallu pour fabriquer la matière neuve. Et ça, c'est très très rare dans le monde du recyclage.
Et alors, comment vous est venue cette idée de recycler cette fibre de carbone ?
Eh bien, j'ai vu les sites d'enfouissement. Et j'ai vu...
On l'enfouit où aujourd'hui ?
Alors, la France l'enfouit. L'Allemagne envoie ses déchets en France et on l'enfouit en France. Et les pays comme l'Espagne, par exemple, essentiellement l'incinèrent. Donc, c'est pas très joyeux pour la planète. Et on peut déjà constater en France que les sites d'enfouissement sont absolument gigantesques et les tractopelles sont tout petits à l'échelle de ce qu'on voit enfoui.
Alors, c'est pas joyeux pour la planète, mais même si on se place d'un point de vue purement pragmatique, économique d'une certaine manière, c'est idiot de l'enfouir parce que tout ça, ça a une valeur. C'est facile de la recycler et de la réutiliser.
Facile, je sais pas. Mais...
ouais, en fait, personne n'arrive à le recycler de manière écologique. Et c'est là toute l'innovation de Fermat.
Parce que derrière, il y a une valeur. C'est simple à réutiliser, en tout cas, au moins.
Bah, on se propose de lui apporter justement de la valeur et d'en faire un matériau résistant. Et en fait, il n'y a pas de matériau qui soit et recyclé et résistant. C'est-à-dire que les industriels qui, eux, veulent consommer moins d'énergie...
Quand on recycle du plastique, on arrive bien à faire quelque chose de résistant, quand même.
Bah, le plastique qui est recyclé aujourd'hui, c'est du plastique de bouteille d'eau. Donc, c'est bien pour faire une bouteille d'eau. Mais on
ne
va pas faire la table de ce studio avec des bouteilles d'eau.
En tout cas, vous refaites un peu du neuf, de la fibre de carbone neuve, enfin recyclée, mais des vraies planches de fibre de carbone. Ça se présente comment exactement ?
C'est ça. Nous, en fait, on livre des produits semi-finis, c'est-à-dire des panneaux. Voilà, qu'on peut utiliser pour fabriquer un vélo, pour fabriquer des pièces de téléphone portable ou simplement tout le mobilier de ce studio, par exemple.
Alors, ce n'est pas encore commercialisé, je crois. Ce sera en 2022 ?
C'est commercialisé en 2022 parce qu'on est en train d'industrialiser une usine qu'on a d'ailleurs choisi de recycler aussi.
Où ça ? Installé où ?
Alors, c'est en région. Voilà, on le divulguera bientôt.
Ah, vous ne voulez pas encore nous dire l'endroit où c'est. Ce qui est intéressant dans ce marché, et si je reprends l'exemple du plastique recyclé, on a su le faire, mais pendant très longtemps, ça coûtait trop cher et les industriels ne s'en emparaient pas. Est-ce que là, vous pensez que derrière, vous allez réussir à la revendre à un prix suffisamment intéressant pour que les industriels s'en emparent ?
Monsieur Bazin l'a bien dit, le coût, c'est l'énergie. Quand on recycle et que ça coûte cher, ça veut dire qu'on recycle de manière polluante. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on a utilisé de l'énergie, soit dans le transport, soit dans le processus de recyclage. Nous, on recycle avec beaucoup moins d'énergie que ce qu'il a fallu pour fabriquer la matière neuve.
Comment vous faites ?
Donc ça va être beaucoup moins cher.
Comment vous faites pour recycler avec moins d'énergie ?
Alors, on fait un recyclage comme ça n'a jamais été fait. En fait, on récupère les matériaux, on les met dans des formats compatibles pour recycler. Et là, on a développé des algorithmes avec du machine learning, avec du deep learning. Et en fait, on a formé des robots à fabriquer des panneaux de manière extrêmement rapide, tout en donnant une résistance à la matière qui est absolument géniale.
Benoît Bazin, je rappelle que vous êtes le patron de Saint-Gobain, vous êtes notre grand témoin, vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Qu'est-ce que vous en pensez déjà tout bêtement de ces manières de recycler ces matériaux extrêmement utiles et géniaux, comme on l'a entendu ?
Bravo d'abord pour la créativité. Moi, ce que je constate, c'est que tous les enjeux de décarbonation de la planète, ça nous donne une énergie et finalement des idées complètement nouvelles. Donc il y a pour des jeunes entreprises comme celle-ci, pour des vieilles entreprises comme Saint-Gobain, en fait un formidable élan de technologie et d'innovation. Nous-mêmes, on avance à toute vitesse. Moi, j'ai donné à mes équipes l'engagement d'être les premiers à faire de la plaque de plâtre zéro carbone. On a annoncé une usine en Norvège avec de l'hydroélectricité, avec du gypse, la matière première pour la plaque de plâtre, entièrement recyclée. Donc on a plusieurs courses à la lune, hein, comme les appelait Kennedy à l'époque, on veut être les premiers à avoir une plaque de plâtre zéro carbone, par exemple.
Parce que, dites-moi si je dis une erreur, mais le bâtiment, c'est 40% des émissions de CO2, c'est notamment beaucoup les déchets qui polluent. Il y a un gros travail dans le bâtiment à faire là-dessus.
Alors, il y a effectivement trois grands sujets dans le bâtiment. Les émissions de CO2, 40% dans le monde, c'est la première source. Deuxièmement, les ressources naturelles. Il y a beaucoup de ressources naturelles qui deviennent rares, de plus en plus chères. Donc, baisser fortement la consommation de ressources, c'est très important. Et c'est pour ça que Saint-Gobain s'engage sur ce qu'on appelle la construction légère, la construction frugale, c'est des ossatures en bois, c'est des ossatures métalliques, ce ne sont plus les murs pleins d'autrefois.
Après, vous vous engagez, mais c'est la loi aussi qui va vous obliger à le faire, puisque typiquement, les futures constructions en France vont devoir intégrer beaucoup plus de bois. Donc, tant mieux que vous le fassiez en même temps.
Et beaucoup plus de matériaux recyclés. À partir de janvier de l'année prochaine, on va devoir recycler les déchets du bâtiment. Et d'ailleurs, Saint-Gobain a été le chef de file d'un organisme, éco-organisme, qu'on appelle Valobat, qui va recycler à partir de janvier les déchets du bâtiment. On va entendre parler de Point P tout à l'heure. Nous avons 120 points de collecte des déchets du bâtiment sur toute la France grâce à Point P.
Et on arrive à vendre ça au même prix? C'est-à-dire que ce n'est pas nous, consommateurs, qui devons payer votre transition écologique?
Non, parce que la plupart du temps, si vous passez sur la construction légère, vous réduisez de 20% le temps du chantier parce qu'on va construire plus vite avec des éléments préfabriqués. On a construit, par exemple, en Catalogne récemment, un hôpital de 108 lits en 4 mois. Ça aura pris 4 ans avec des mécanismes de construction traditionnels. Donc on peut construire plus vite, ça veut dire moins cher, et avec moins de matériaux, donc là aussi des économies sur le coût, et puis tous les impacts CO2 qu'on a évoqués.
Merci Benjamin Saada, vous êtes donc le fondateur de Fermat qui s'apprête à commercialiser de la fibre de carbone recyclée. C'était très intéressant, on a appris plein de choses.
Effectivement, on est un poil moins bête et j'espère qu'on réussit à faire ça chaque jour aussi dans la France Bouche, et une de nos missions. Benoît Bazin, le patron de Saint-Gobain, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry,
Emmanuel Dutheil.
Elle bouge et elle recycle, cette France. Elle est en train d'inventer l'avenir avec des leaders mondiaux. On n'en a pas 50, mais on en a au moins dans le monde du bâtiment. C'est Saint-Gobain, l'une de nos plus vieilles entreprises, l'un de nos plus vieux fleurons et qui est toujours aux avant-postes. Et on parle de tout cela aujourd'hui avec son tout nouveau patron, Benoît Bazin, qui nous fait l'honneur d'être autour de la table de la France bouge. Alors, on a parlé de la rénovation énergétique. Pensons aussi peut-être aux constructions finalement de demain. Parce que vous le disiez, on peut utiliser de nouveaux matériaux, on peut construire plus vite. Mais il faut aussi construire en se disant qu'un jour sera peut-être une autre utilité que l'utilité première. Je vais prendre un exemple, le village olympique qu'on va devoir construire pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Ça ne sera pas un village olympique toute sa vie, a priori. Mais c'est un bon exemple de se dire, de penser à ce que ça puisse servir à plein de choses, ce que l'on construit.
Oui, parce que déjà dans notre vie personnelle, quand on a des enfants à la maison, il faut plusieurs chambres. Quand ensuite les enfants partent, on peut s'agrandir un petit peu. Quand ils reviennent avec les petits-enfants. Donc, typiquement, regardez une construction au Japon. On est habitué à ces cloisons qui bougent, qui agrandissent les pièces. Eh bien, il faut adapter nos modes de construction en France. Je prends un autre exemple. Les plages de Paris, on n'avait jamais imaginé il y a 20 ans que les quais de Seine deviendraient des plages. Mmh. Donc, je pense qu'il faut, y compris sur des immobiliers de bureaux, on voit qu'il y a 1 million de mètres carrés disponibles en bureau à Paris, et pour autant, on manque de logements. Donc il faut arriver à rendre tout ça...
Enfin bon, sur ce dernier point, à chaque fois, on nous explique
que
c'est la bonne idée, mais que c'est impossible à transformer. Donc,
Si on avait mieux conçu ces bâtiments au début...
C'est qu'à l'avenir, on pourra le faire plus facilement. Alors.
On saurait les rendre modulaires et versatiles dans leur durée de vie. C'est ça, le sujet de mieux concevoir et de prévoir dès le début des usages différents dans la vie du bâtiment.
Et alors, il y a une chose importante à avoir en tête, justement, c'est que le bâtiment, aujourd'hui, les métiers du bâtiment, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce qu'on s'est dit aussi avant sur la transition écologique, ce n'est pas du tout les mêmes métiers qu'il y a 50 ans, par exemple.
Les métiers du bâtiment sont en pleine révolution. Il y a beaucoup d'innovations. Il faut savoir mesurer une émission de CO2 par mètre carré du bâtiment. Il y a du numérique pour avoir des maquettes numériques du bâtiment. Il faut savoir recycler différents matériaux. Donc, c'est des métiers passionnants. D'ailleurs, le monde de la construction a embauché quasiment 100 000 personnes en un an. Donc moi, j'appelle toute la créativité, toute l'énergie des jeunes d'aujourd'hui à rejoindre ce monde passionnant du bâtiment qui bouge à toute vitesse.
Et il faut arrêter de penser que c'est une voie de garage si les enfants disent « Tiens, moi, je travaillerai bien dans le bâtiment ».
C'est un très beau métier. Vous voyez ce que vous faites, vous pouvez le montrer à votre famille, à vos enfants. Vous êtes fiers de ce que vous avez rénové, de ce que vous avez construit. Vous vivez bien, les artisans du bâtiment en France vivent bien. Ce n'est pas des métiers qui se délocalisent. Quand il faut rénover une maison individuelle à Angers, vous n'allez pas chercher dans un autre pays l'artisan avec tout son savoir-faire qui va le faire. Donc, c'est des très beaux métiers qui évoluent à toute vitesse. Et donc, moi, j'appelle toutes les énergies et les envies dans le monde du bâtiment.
Vous parce que vous avez des postes à pourvoir aujourd'hui, beaucoup. Vous n'arrivez pas à faire face à la demande.
Nous embauchons en France 5000 personnes cette année, 2500 jeunes. Et en plus de ces 5000 personnes, 2000 alternants. Donc, c'est vraiment... Encore une fois,
Au-dessus du SMIC,
ah oui, tout à fait. On pourrait demander aux équipes de Point P qu'on va entendre tout à l'heure, mais donc des métiers valorisants.
Et vous trouvez les compétences aujourd'hui, vous faites partie de ces entreprises qui se disent que ça pourrait un peu freiner notre croissance parce que sur des jobs hyper importants, quel que soit le job au final aujourd'hui dans la boîte, on n'a pas toutes les compétences dont on aurait besoin.
nous sommes très attentifs aux compétences et pour ça, nous avons créé nos centres de formation. Donc, on a des générations maintenant de nos équipes, après quelques années chez Saint-Gobain, qu'on forme. C'est des promotions de 250 par an, soit sur des sujets industriels, soit sur des sujets commerciaux. Donc, on a nos propres écoles de formation pour nos équipes. Mmh. Et puis, Point P a des écoles de formation des artisans, de même pour Placo ou Isover, nos grandes marques, dans la plaque de plâtre ou dans l'isolation en France.
Vous nous disiez, on sera 2 milliards de plus d'ici 20-30 ans. Donc, il faut construire vite et bien. Ça veut dire quoi? Ça va être fait en quoi, nos futurs logements? Et suivant les pays, j'imagine aussi.
Alors, les 2 milliards, ce sont les habitants qui arriveront dans les grandes métropoles en pays émergents, en Inde, au Mexique ou en Chine. Ces pays-là se sont engagés sur des modes constructifs nouveaux, avec là aussi des contraintes de décarbonation, des contraintes de productivité de chantier. La plaque de plâtre, je vous donne un exemple, la plaque de plâtre, on en consomme 10 mètres carrés par habitant aux États-Unis, parce que c'est un produit bien installé. En France, c'est 5, et puis en Inde ou au Vietnam, c'est un demi mètre carré par habitant, parce que ce sont des produits qui montent en puissance, qui permettent de construire vite et bien des cloisons, des plafonds. Et donc ce type de produit tout à fait sain et durable arrive dans les pays émergents pour construire vite et bien dès le début, avec là aussi des solutions Saint-Gobain, des systèmes de façade qu'on préfabrique en usine et qu'on livre directement sur chantier, donc des constructions très rapides et bonnes dès le départ.
Alors Benoît Bazin, nous aimons bien chaque jour dans cette émission revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association parfois, qui a traversé les années, voire les siècles. Aujourd'hui, on ne va pas vous apprendre grand-chose, hein, puisque vous l'avez dit, on va parler de Point P, c'est l'une de vos principales enseignes.
Oui, un Point P qui vous appartient, je crois, depuis environ 25 ans. Et bien la suite, c'est Charlotte Barrican qui va nous la raconter.
Europe 1. La France bouge. La saga.
En 1960, l'entreprise Poliette et Chausson devient le premier distributeur de matériaux de construction en France. Quelques années plus tard, en 1979, le groupe est coupé en deux et c'est à ce moment-là que naît Point P. Alors que vous soyez amateur de bricolage ou bien artisan, Point P est une enseigne de distribution de matériaux de construction. Cette entreprise est là pour vous accompagner dans vos travaux de bâtiment ou de rénovation et s'adapte depuis sa création à tous vos besoins. Nicolas Godet, directeur général de Point P.
Alors je crois que depuis 40 ans, il y a un double besoin. Évidemment, un besoin d'approvisionnement des matériaux, mais surtout et avant tout un besoin de conseil et d'expertise parce que le bâtiment est un métier qui est technique. Au-delà de ça, je crois que depuis 40 ans, nous répondons aux mêmes problématiques qui sont le fait d'accompagner les artisans, évidemment dans leur métier de tous les jours, mais dans la montée en qualification de leur métier pour lutter contre une pénurie de main-d'œuvre qui était vraie hier, qui est vraie aujourd'hui. Accompagner nos clients dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, depuis quelques décennies déjà, mais encore plus maintenant, accompagner le recyclage des déchets du bâtiment.
L'immense majorité des matériaux distribués par Point P vient de France. Ciment, chaux, plâtre ou encore carrelage. Des milliers de références sont disponibles en ligne ou dans les points de vente pour les professionnels et les particuliers qui souhaitent isoler leurs murs, refaire leur électricité ou encore leur plomberie. Une large gamme de choix qui se tourne de plus en plus vers le biosourcé comme la laine de bois, le chanvre ou encore le coton. Et depuis quelques années, ce n'est pas la seule innovation de l'entreprise.
Ce qui compte pour nous, c'est les innovations que nous avons faites. D'abord sur l'accompagnement des artisans avec le lancement d'objectifs RGE pour former nos artisans à la rénovation énergétique et à la certification. Et puis on a lancé l'année dernière le pack Jeunes Artisans, qui est une promotion chaque année de 300 jeunes artisans qui vont lancer leur entreprise pour les accompagner commercialement, juridiquement, dans l'aide au recouvrement de créances, mais aussi avec les banques, afin de les lancer. Donc ça, ce sont des actualités dont nous sommes très fiers.
Point P, aujourd'hui, ce sont plus de 1000 points de vente partout en France, avec comme seule consigne ne pas être à plus de 20 km d'un chantier. Une aubaine pour l'entreprise qui cherche à former cette année encore plus de 2000 nouveaux collaborateurs et 500 alternants.
C'était Charlotte Barrican de l'équipe de La France Bouge. Alors Point P, c'est vrai que comme le disait Carole, ça fait partie, Benoît Bazin, de ces marques quand même que l'on connaît tous en France. Parfois, on a quand même l'idée de se dire, c'est pas pour nous les particuliers, c'est principalement pour les professionnels. Je crois que c'est 80% du chiffre d'affaires pour les professionnels, comme le disait Charlotte. C'est quand même pour nous? On peut y aller, on peut aller pousser la porte, c'est...
Il faut venir pousser la porte. Nous avons des showrooms dédiés aux particuliers sur tout ce qui est décoration, carrelage. Et puis, si vous avez des projets, venez chez Point P. Donc, nous avons 2000 agence de négoce de matériaux en France, 1000 sous l'enseigne Point P, et puis Point P vous met en relation avec la maison Saint-Gobain. Si vous voulez rénover votre maison, vous allez...
Qui est un peu votre portail pour toutes les solutions justement de rénovation énergétique.
Voilà, où nous inspirons, vous voulez rénover un grenier, vous voulez faire une pièce supplémentaire, et nous vous mettons en relation avec des artisans certifiés qualité Point P, avec tout le savoir-faire de Saint-Gobain. Donc voilà, c'est vraiment un univers passionnant dans le monde du bâtiment, et Point P a été depuis des décennies la référence pour les artisans dans le bâtiment.
Et est-ce que vous souffrez également de la pénurie de matériaux dont on parle beaucoup depuis la crise ?
Nous avons fait beaucoup d'efforts pour ajouter des équipes dans nos usines depuis le début de l'année, parce que c'est un sujet qui dure depuis quelque temps. La situation était plus tendue en avril-mai qu'en ce moment. Nous avons fait attention à ne jamais arrêter des chantiers de nos artisans. Nous n'avons jamais arrêté d'usine parce que nous-mêmes, nous aurions souffert de manque de matières premières.
J'étais étonné, vous en avez 115 unités de production en France, c'est ça ?
115 usines en France. Donc nous sommes très implantés parce que nos produits sont fabriqués localement en France pour nos artisans, pour nos enseignes de distribution.
Mais malgré tout, vous avez bien un problème de matières premières de tout ce que vous fabriquez, parce qu'ici, autour de la table de la France Bouge, on n'arrête pas d'avoir des gens qui nous disent on ne sait pas si les conteneurs arrivent, ils s'arrêtent parfois même plus dans les bons ports parce qu'ils n'en ont rien à faire de savoir si on nous livre correctement et on n'arrive à rien avoir. Vous, grâce à votre organisation, à vos usines en France, vous n'avez pas ce problème ?
Alors nous avons une organisation qui est gérée complètement par pays. C'est une grosse transformation organisationnelle du groupe que j'ai mise en place depuis 3 ans avec des directeurs généraux par pays. Et en France, nous avons les matières premières. Nous avons des carrières de gypse, par exemple, pour ensuite fabriquer de la plaque de plâtre à Saint-Jean-de-Maurienne.
Alors quand notre petit artisan nous dit « je ne peux pas faire votre maison parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut », il nous ment ?
Il y a eu des pénuries sur le bois. Nous ne fabriquons pas du bois. Et c'est vrai qu'il y a du bois qui est venu de Scandinavie, qui est venu d'Allemagne, qui a manqué. Si je reprends l'enseigne de l'ensemble de Point P, nous avions des ruptures qui étaient montées à 5 ou 6% au pic de la crise, qui sont descendues à 2 ou 3. Donc c'est tout à fait gérable. En revanche, il faut un petit peu plus s'organiser, prévoir, parce qu'il y a des délais de livraison plus importants.
C'est ça, il y a un peu de retard. Il peut y avoir des retards.
Voilà.
Et vous disiez, cette organisation, on ne passe pas forcément par Paris, c'est très intéressant parce que l'autonomie des pays permet d'aller plus vite, en fait, dans l'approvisionnement.
Dans l'approvisionnement et puis surtout dans la connaissance des marchés. Les marchés de la construction, ils sont locaux. On construit au Vietnam, différemment du Canada ou différemment de l'Argentine. Eh bien, nous avons, dans l'entreprise Saint-Gobain, un monsieur vietnamien au Vietnam, une directrice générale polonaise en Pologne, un Argentin en Argentine. C'est ça qui leur permet de connaître leurs clients, les façons de construire, la capacité à attirer les meilleurs. Un Américain va mieux embaucher des Américains qu'un Français aux États-Unis. Donc c'est ça la force de Saint-Gobain. 90% de nos directeurs généraux ou directrices générales de pays sont des natifs de leur pays.
Nous sommes toujours avec le PDG de Saint-Gobain, Benoît Bazin, notre grand témoin du jour. Et nous allons vous demander maintenant d'enfiler votre casque de coach.
Europe 1. La France bouge. Carole Ferry. Emmanuel Dutheil.
Je vous le dis souvent, il faudrait qu'on diffuse les moments de publicité dans cette émission parce qu'il se dit aussi plein de choses. Un jour, tiens, on fera peut-être même un best-of de ce que vous n'avez pas entendu. Ce serait assez original, mais en attendant, on arrive au trophée de l'avenir Europe 1. La France bouge. Chaque jour, elle est où ils tentent de vous convaincre pour cela. Ils défendent leur dossier devant notamment Nathalie Carré, notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie, et devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Benoît Bazin, patron de Saint-Gobain, l'un des plus grands groupes de France, l'un des plus vieux, un des fleurons du CAC 40. Voilà, c'est pour mettre un tout petit peu la pression.
Bonjour Clément Barrioz.
Bonjour.
Vous avez 21 ans, vous habitez à Lyon.
Exactement.
Vous êtes très jeune, mais quand vous étiez encore plus jeune, vous avez fait quelques jobs d'été dans des magasins de piscine. C'est là qu'est née votre idée du local piscine. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous avez une minute pour tout nous raconter, c'est à vous.
Eh bien écoutez, en France, il faut savoir qu'il y a plus de 2 500 000 piscines depuis 2020. Il faut savoir que parmi elles, 200 000 ont été construites durant l'épidémie du Covid-19. Le marché de la piscine s'est complètement démocratisé. Comme vous l'avez dit, durant différents jobs d'été effectués dans le secteur de la piscine avec mon associé, on a témoigné de cela, ainsi que d'une très forte demande en fait, des clients pour des robots de piscine reconditionnés. Il faut savoir qu'en France, il se vend plus de 200 000 robots électriques neufs. Et ces robots qui ont une durée de vie de 8 ans finissent généralement leur cycle de vie dans des déchetteries. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à un concept qui consiste à collecter ce matériel tout en garantissant un gage de qualité et un coût très modéré par rapport au neuf. C'est de là qu'est né le local piscine. Donc notre activité consiste tout simplement en fait à collecter du matériel défectueux, d'effectuer par la suite un diagnostic pour cibler l'éventuelle panne, de le réparer, de faire un processus de qualité, tester, le nettoyer et le remettre sur le marché.
Et c'est beaucoup moins cher, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Alors, si on m'a dit vrai, ça vaut environ 1200 euros un robot neuf.
Exactement.
Et vous arrivez à nous le revendre 550 euros. Vous disiez que ça a 8 ans de vie en moyenne. Une fois qu'il est reconditionné, il a à nouveau 8 ans de vie.
Exactement.
Bon, ben voilà.
On remet à neuf en fait tout le système qui est à l'intérieur. Et ce qui est important de dire, c'est que c'était vraiment aussi important pour nous ainsi que pour nos clients de mettre en place une activité qui ait quand même un impact positif sur l'environnement.
Clément, comme chaque jour, Nathalie Carré, notre fée, en effet, de CCI France. J'ai beaucoup aimé le terme, à scruter votre dossier pour voir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Bonjour Nathalie.
Bonjour Carole, bonjour Clément, bonjour Emmanuel.
Coucou.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du projet de Clément, Nathalie ?
Bon, alors clairement, avoir une piscine traditionnelle chez soi, c'est pas hyper écolo ni hyper économique. Donc autant limiter les impacts avec effectivement ce que vous proposez, c'est-à-dire du matériel reconditionné. Et ce marché commence à émerger doucement sur tous les accessoires de piscine. Bravo pour la réduction effective sur le prix, car chez vos concurrents, en fait, entre le neuf et le reconditionné, la différence de prix est tellement faible qu'en fait, on se dit qu'on va plutôt acheter du neuf. Alors, un point amélioré, une suggestion. Point amélioré, c'est que en fait, pour capter le client dès le début du cycle d'achat, donc la réflexion, il faut du contenu informatif sur les accessoires de piscine éco-responsables, une aide au choix et des conseils d'achat, des conseils pour limiter son impact carbone, des trucs et astuces, des explications sur l'impact de la fabrication des produits neufs, bref, des informations qui vous positionnent comme le spécialiste des accessoires de piscine éco-responsables. Et donc, sur les fiches qui décrivent les produits, il faut être beaucoup plus précis, faites le lien avec le produit neuf pour qu'on voit bien l'intérêt économique. Vous venez de le dire, c'est quand même 50% d'économie chez vous. Donc, et au-delà de l'intérêt écologique, il y a aussi cet intérêt-là. Et puis, pour rassurer, expliquez comment vous reconditionnez. Pourquoi c'est comme neuf ? Et puis, les garanties que vous offrez. Puis, une suggestion, la collecte, c'est le sujet phare. Hein. Alors, trois idées pour motiver les vendeurs. Faites un comparatif en termes de temps et d'argent gagné entre vous et le Bon Coin. Parce qu'il y a pas mal de moteurs, de robots à vendre sur le Bon Coin, par exemple.
Mais ils ne sont pas reconditionnés sur le Bon Coin.
Ah, ils ne sont pas reconditionnés, justement. Donc, expliquez l'intérêt de venir chez vous plutôt que sur d'autres sites d'occasion. Organisez des espèces de piscine tours. Sur le site du cadastre, vous pouvez repérer facilement les zones avec beaucoup de maisons avec piscine. Vous distribuez des tracts pour annoncer votre venue, pour collecter le matériel. Jour J, vous louez un camion, vous faites le tour des maisons pour récupérer le matériel. Et pour simplifier, vous donnez des prix forfaitaires. Comme ça évite les discussions de marchands de tapis sur le trottoir.
Mais je crois qu'il va vous emmener dans le camion, là, faites attention, ouais, parce que vous n'avez pas de bonnes idées.
Ouais, je suis pas sûr. Et puis, postez des offres d'emploi sur les réseaux sociaux pour recruter des lycéens collecteurs partout en France. Ils collectent autour de chez eux et chez eux, vous passez une fois par mois pour récupérer. Parce que si les vendeurs ne viennent pas à vous, eh ben, allez chez eux.
C'est pas une fée, une marraine fée, Nathalie Carré. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces conseils?
Je trouve que ces conseils sont très bien et on va les prendre en compte.
Ouais. Alors, votre vrai souci, en fait, je crois, c'est justement, effectivement, d'avoir des gens qui vous donnent leur matériel un peu défectueux, c'est ça, hein. Donc, elle vous a donné plein de conseils, Nathalie?
Oui, exactement. Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le nerf de la guerre pour notre activité, c'est vraiment la collecte. C'est-à-dire qu'il faut réussir, justement, à aller voir des revendeurs de matériel, justement, pour qu'ils réussissent à collecter pour nous. Et on essaie de passer, justement, plusieurs partenariats avec des grosses sociétés qui réussissent justement à collecter pour nous. C'est pour ça aussi que ces conseils vont nous être très très utiles.
Benoît Bazin, vous êtes le patron de Saint-Gobain. Avec votre œil là d'entrepreneur, vous en pensez quoi ?
Alors déjà, moi, ce qui a teinté à mon oreille en termes de musique, c'est que Clément a parlé beaucoup d'impact. Le plan stratégique que j'ai lancé sur la construction durable, on l'a appelé croissance et impact. L'impact pour la planète, c'est exactement ça, l'impact pour vos clients. Donc ça, c'est avoir de l'impact, ça va attirer plein d'équipes et de salariés chez vous. C'est évidemment un gros marché. Nous avons 120 points de collecte. Je me suis dit que peut-être on pourrait proposer dans certaines régions où il y a beaucoup de piscines, en PACA.
Et le nord de la France, puisque c'est les Hauts-de-France qui en ce moment fabriquent et construisent le plus de piscines. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça.
C'est le réchauffement climatique.
Exactement.
Nous avons de la colle carrelage, nous vendons du carrelage pour des piscines. D'un pas à un autre, on pourrait imaginer d'avoir un partenariat pour effectivement collecter les robots défectueux. C'est des sujets très importants. Nous, on s'est engagé à baisser de 80% nos déchets non recyclés partout dans le monde. Donc bravo pour cette initiative. Et c'est vraiment un chemin très important d'apprendre à réutiliser les matériaux.
Bon, bah, vous avez bien fait de venir, hein, Clément
Berrios-Barrios. Ouais. Exactement.
Donc, vous êtes cofondateur du local à piscine qui propose du matériel de piscine recyclé.
Et Nathalie Carré, on vous dit à demain. Si vous voulez venir présenter votre entreprise, eh bien, c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, ce1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1, La France Bouge.
Benoît Bazin, le PDG de Saint-Gobain, est avec nous aujourd'hui dans La France Bouge et nous arrivons déjà à la dernière partie de cette émission.
Europe 1, La France Bouge. Carole Ferry, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est déjà la dernière partie de votre émission et nous sommes toujours avec Benoît Bazin, qui est le tout nouveau patron de Saint-Gobain. Ça fait quelques semaines maintenant que vous êtes à la tête de Saint-Gobain et on poursuit avec Demain au travail.
Et avec Agnès Lecouvet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes la responsable RSE du cabinet d'études Bearing Point, la RSE, responsabilité sociale et environnementale. On en parle beaucoup en ce moment. Donc vous, c'est pendant le confinement que vous êtes dit tiens, on devrait inciter nos salariés à venir travailler avec des modes de transport plus propres, notamment à vélo. Et donc vous avez trouvé une solution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, bien sûr. Donc en fait, pour contextualiser un petit peu, notre présidente Axelle Packer est signatrice de la convention Entreprise Climat. Cette signature s'inscrit en fait dans une dynamique autour de la sustainability que nous portons, qui sont des valeurs très fortes chez Bearing Point. Et donc en effet, pendant le confinement, on a vu que l'État a mis en place le FMD. Le FMD, c'est le forfait mobilité durable. C'est un forfait qui est mensuel, qui est mis sur le salaire en brut, mais qui ne sont pas soumis à impôts. Donc le collaborateur touche cela en aide sur son salaire et il peut en bénéficier en fait pour acheter un vélo, pour acheter du matériel vélo, etc. Donc il peut vraiment l'utiliser à bon escient comme il le souhaite. Nous à l'époque, donc pendant le confinement, on était dans les starting blocks lorsque l'État a mis ça en place. Et on était conscients chez Bearing Point d'avoir une population de jeunes consultants dynamiques qui évoluent dans un milieu urbain. Il y avait une réelle demande de leur part en termes d'accessibilité sur l'offre vélo. Et donc, on a pu mettre en place le forfait mobilité durable chez Bearing Point à l'époque.
Et c'est quoi ces vélos ? C'est principalement des vélos électriques vers lesquels les salariés ont basculé ?
Alors en fait, il y a vraiment une offre complète, c'est-à-dire que chez Bearing Point, on voulait pouvoir proposer n'importe quel vélo. Alors nous, on trouve que le vélo électrique et le vélo cargo notamment sont vraiment des réponses adéquates pour remplacer la voiture. Mais on laisse la possibilité de choisir n'importe quel vélo.
Et alors est-ce que vous avez beaucoup de salariés qui ont basculé ?
Alors aujourd'hui, on a environ 150 collaborateurs qui ont été touchés par ce dispositif et on estime encore à une centaine de personnes qui sont intéressées et qui en bénéficieront avant la fin de l'année. L'avantage du FMD, donc du forfait mobilité durable, c'est que le collaborateur va pouvoir à la fois bénéficier éventuellement d'un remboursement en partie sur ses titres de transport tout en bénéficiant d'un vélo à côté, en sachant que nous, en fait, on va avoir des gens qui vont avoir besoin d'étudier deux modes de transport, c'est-à-dire aller parfois chez le client, donc peut-être y aller en transport en commun et à la fois venir régulièrement dans notre tour qui est basé à La Défense. Et dans ce cas-là, le vélo pourra être un bon moyen de se déplacer.
Et votre tour n'est pas très loin de celle de Saint-Gobain, qui est le tout nouveau siège de Saint-Gobain à La Défense, qui est l'une des tours les plus modernes, totalement éco-responsable. Les vitres qui sont votre activité historique réverbèrent la lumière, tout ça. Il n'y a pas besoin d'autres sources de chaleur, je crois, que ce que vous avez mis en place, Benoît Bazin. Et on y vient en vélo à La Défense dans votre tour ?
Nous avons une initiative similaire qui s'appelle Agir durablement pour tous nos collaborateurs en France, où on a un partenariat avec une société de vélo qui s'appelle Zenride. Et donc, on offre également à nos collaborateurs de venir en vélo. Et chose supplémentaire, on a aussi un centre fitness dans la nouvelle Tour Saint-Gobain. Donc, non seulement vous venez en vélo, mais en plus, à l'heure de la pause déjeuner, vous pouvez faire de la gym et refaire un peu de vélo.
Vous venez à vélo ?
Pour l'instant, le fitness center, il a été fermé parce qu'on devait mettre le masque. Mais il commence à s'ouvrir et donc je compte bien effectivement l'utiliser.
Mais est-ce que vous venez à vélo ? Demandait Emmanuel.
Non, moi j'ai fait ça pendant des grèves il y a une certaine année. J'ai pris plus de pollution dans le nez que je n'avais jamais imaginé. Et donc, pour l'instant, c'est une alternation d'une voiture ou métro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé aussi, plus généralement en Europe, c'est parti des pays nordiques et en Russie, une initiative fonds carbone en interne pour toutes les petites initiatives. C'est passer sur des gobelets en plastique, c'est enlever les capsules de café pour faire du café comme autrefois. Et on a eu 1000 initiatives de collaborateurs, comment améliorer l'empreinte carbone du groupe en interne dans les bâtiments tous les jours.
Et d'un mot, je le disais tout à l'heure, vous êtes le tout nouveau patron de Saint-Gobain. Il y a quelques semaines, vous remplacez un patron assez historique chez Saint-Gobain, Pierre-André Chalandard, qui était resté quand même un paquet d'années. Qu'est-ce que ça fait quand on est tout seul aux commandes, on regarde un peu derrière, on se dit « Waouh !» Alors, vous avez été très bien préparé. Mais votre première impression de patron tout seul ?
Je connais Saint-Gobain de l'intérieur depuis 22 ans. C'est une entreprise que j'aime formidablement, des équipes extraordinairement engagées. Il y a un jour, on vous a préparé et oui, vous devenez le premier de cordée. Et moi, mon ambition, mon objectif et mon plaisir tous les jours, c'est de faire gagner l'équipe Saint-Gobain. Mmh. Donc voilà, c'est ça qui me motive tous les jours avec une énergie très très forte de toutes les équipes du groupe.
Merci Agnès Lecouvet, vous êtes donc responsable RSE chez Bearing Point et vous tentez d'inciter vos salariés à venir travailler à vélo.
Et ils y arrivent, c'est ça surtout, c'est ça qui est vachement intéressant. Merci à vous Benoît Bazin, patron de Saint-Gobain, grand merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure.
Et demain, vous retrouvez Elisabeth Assayag. Alors, quel sera le programme, Emmanuel ?
Bah tiens, je vous propose qu'on continue en partie à parler de vélo, puisque notre invitée, ce sera la patronne de Deliveroo en France. Plus sérieusement, Deliveroo est en train de se réinventer avec cette crise, notamment du côté des restaurants qui livrent de plus en plus à domicile.
Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.